VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Les djihadistes du Mali menacent de frapper la Mauritanie et la Côte d'Ivoire après avoir étendu leurs attaques jusqu'aux frontières de ces deux pays qu'ils accusent de coopérer avec les ennemis de l'islam. Idrissa Sédoudia.
Ismaël Khalil, membre d'Ansar Dine, a dit à l'AFP « Nous revendiquons l'attaque de Nara et celle de Fakola, terre d'islam, pour punir les ennemis de l'islam ». Le prédicateur radical malien a ajouté « Nous allons multiplier les attaques en Côte d'Ivoire, au Mali et en Mauritanie, des pays qui travaillent avec les ennemis de l'islam ». L'attaque de samedi contre un camp militaire à Nara, dans le centre du Mali, près de la frontière mauritanienne, a fait 3 tués parmi les militaires maliens et 9 chez les assaillants, selon le gouvernement. Dimanche, à Fakola, dans le sud, à 20 km du territoire ivoirien, des bâtiments administratifs et de sécurité ont été saccagés. Pour rappel, Ansar Dine fait partie des groupes djihadistes qui ont contrôlé le nord du Mali de mars à avril 2012, jusqu'au lancement, en janvier 2013, d'une intervention militaire internationale à l'initiative de la France.
En Côte d'Ivoire, prorogation de 12 jours de la révision de la liste électorale. Le décret en ce sens a été annoncé hier soir par le président Alassane Ouattara. Les Ivoiriens auront donc jusqu'au 13 juillet pour se faire inscrire sur les listes électorales. Un processus qui ne suscite guère d'engouement jusqu'à présent. Pourquoi cette désaffection ? Un début de réponse avec le docteur Christophe Kouamé, coordonnateur national de la Convention de la société civile, au micro de Jean-Roger Bion.
Il y a une fracture suite à la crise post-électorale. Et cette fracture qui a mis deux camps en face n'a pas, à la date d'aujourd'hui, pu être fermée. Constatez vous-même que le président de la CDVR, aujourd'hui candidat, je dirais, joue contre les citoyens ivoiriens qu'il était censé interroger pour arriver à la réconciliation. Donc, le petit peuple s'y perd entre l'ancien président de la CDVR qui attaque le pouvoir en place qui attaque les partis d'opposition, les partis d'opposition qui sont divisés. Donc, dans une atmosphère comme ça, le citoyen lambda ne se retrouve plus. Nous pensons que le public, déjà, sa peur qui est née suite à la crise post-électorale n'est pas partie. Et nous n'avons pas vu la société civile elle-même être mobilisée pour sensibiliser les citoyens comme par le passé, ça s'était fait en 2010.
Est-ce que la solution serait dans cette extension ?
Aujourd'hui, nous allons étendre de 12 jours, c'est-à-dire, je dirais, 7 jours ouvrables. Mais sur ces 12 jours, est-ce que la sensibilisation, l'information, je dirais, l'approche citoyen va changer dans ces 12 jours ? Je n'ai rien vu de publié sur cela. Si c'est pour employer les mêmes techniques pour dire aux gens avec des grosses pancartes, allez vous enrôler, je pense qu'on ne va pas atteindre les objectifs qui sont à peu près respectés de 70%.
Le docteur Christophe Kouamé, coordonnateur national de la Convention de la société civile en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, une dizaine de militaires du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, mis aux arrêts hier suite au tir de lundi soir à Ouagadougou qui avait suscité une forte émotion dans la capitale. D'où viennent ces sautes d'humeur de la part de l'unité d'élite chargée de la protection des présidents, dont faisait partie auparavant l'actuel Premier ministre Isaac Zida? Les explications du rédacteur en chef du quotidien burkinabé L'Événement, Newton Ahmed Barry, au micro de Claire Morin-Gibourg.
Actuellement, il y a une médiation qui est en train d'être menée par l'ancien chef d'État burkinabé Jean-Baptiste Ouédraogo, en accord avec le chef d'État de la transition Michel Kafando, autour évidemment du différend qui oppose le RSP, donc le régiment de sécurité présidentielle, et le premier ministre Zida. Aujourd'hui, le RSP met sérieusement en balance évidemment le poste de premier ministre de Zida. Il revendique deux choses importantes en disant d'abord qu'il ne veut plus des militaires au niveau de la gouvernance de la transition et donc Zida devrait démissionner et avec lui tous les militaires qui sont au niveau du gouvernement. Il semble que pour eux, c'est la solution à la crise actuelle.
Et le retour sur le devant de la scène de l'ancien président Ouédraogo, qu'en pensez-vous ?
Évidemment, c'est un personnage qui est beaucoup sollicité en situation de crise. En février, c'était lui également qui avait été sollicité pour essayer d'arbitrer le différend entre le RSP et Zida. Cette fois encore, c'est lui qui est là. Évidemment, je pense que comme c'est un ancien militaire, donc un officier supérieur à la retraite, probablement que les éléments l'écoutent.
Selon votre analyse, est-ce que la situation pourrait dégénérer ?
Il n'est pas exclu qu'elle dégénère si une solution n'est pas trouvée dans les jours à venir, très rapidement d'ailleurs, parce que les éléments du RSP sont dans une nervosité qui peut conduire à tous les dérapages possibles. Ils ont fait la ronde d'un certain nombre de médias en disant très clairement qu'ils allaient procéder à l'arrestation du Premier ministre parce qu'il s'était illicitement enrichi. Lui est le ministre de l'administration territoriale qui se trouve aussi être un militaire, un colonel en l'occurrence.
Newton Ahmed Barry, rédacteur en chef du quotidien burkinabé, l'événement à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a annoncé hier soir la convocation d'un dialogue national pour discuter de l'organisation des futures élections et de l'avenir des institutions. Un extrait des propos du chef de l'État congolais.
Au-delà des nuances et des divergences, l'unanimité s'est formée autour de l'urgente nécessité d'aller à un dialogue national sans exclure. Ayant accepté de donner une suite favorable à cet appel de la raison, comment devrait-on organiser au mieux les scrutins à venir dans notre pays? Fait-on, oui ou non, évoluer les institutions de la République? J'ai aussi arrêté que le dialogue national aura lieu du 11 au 15 juillet 2015.
Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 30 ans au pouvoir, une grande partie de l'opposition congolaise qui soupçonne le chef de l'État de vouloir changer la constitution pour briguer un nouveau mandat en 2016, est contre ce dialogue national. La lutte contre la corruption, deux ex-diplomates tchadiens dans le collimateur de la justice américaine. Mahmoud Adam Béchir, ancien ambassadeur du Tchad aux États-Unis et au Canada, et son adjoint au moment des fêtes, Youssouf Hamid Takan, sont accusés d'avoir usé de leur position officielle pour aider la compagnie canadienne Griffiths Energy International à obtenir des droits d'exploitation pétrolière au Tchad. Les deux diplomates auraient obtenu en échange 4 millions d'actions en bourse, valant aujourd'hui 34 millions de dollars que la justice américaine entend bien saisir. La réaction à N'Djamena du président de l'ONG Droits de l'Homme sans frontières, Daniel Dezombe Passalette, au micro de Timothée Donangmaï.
Là, vraiment, ça pose un problème de moralité, ça pose un problème d'intégrité. Quand vous voyez, par exemple, dans les ambassades à l'extérieur, ces nominations sont faites purement sur base de clientélisme, sur base de tribalisme, de régionalisme. Vous ne voyez pas les Tchadiens d'autre bord. Vous voyez les Tchadiens qui sont de la région du président de la République. Et puis, ils pensent que rien ne peut leur arriver du fait qu'ils appartiennent à telle ou telle autre origine. Rien ne peut leur arriver.
Daniel Dezombe Passalette, président de l'ONG Droits de l'Homme sans frontières au Tchad. Les États-Unis et le Brésil, deux des plus grandes économies du monde, prêts à travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique. Engagement pris hier à la Maison-Blanche à l'occasion des consultations entre le président Barack Obama et son homologue brésilienne Dilma Rousseff. Les deux chefs d'État ont affiché leur entente retrouvée après la brouille née de l'affaire des écoutes. Lionel Gaïma.
Saluant son ami Dilma, le président américain a mis en exergue le lien étroit entre les États-Unis et le Brésil, les deux plus grandes démocraties et économies des Amériques, mais aussi entre deux sociétés multiethniques et multiraciales. La présidente brésilienne a de son côté salué lors de cette conférence de presse commune une rencontre riche et productive et a invité son homologue à qui elle a offert le célébrissime maillot jaune et vert brésilien à assister aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Pour rappel, Mme Rousseff avait fin 2013 annulé une visite d'État prévue à Washington à la suite de révélations par la presse d'une surveillance de ses communications personnelles par la NSA américaine. Les choses ont changé, a insisté la présidente brésilienne, soulignant que le gouvernement américain avait assuré qu'il n'engagerait plus d'opérations d'espionnage intrusives envers des pays amis.
Amérique latine toujours, les États-Unis et Cuba ont convenu de rouvrir leur ambassade dans leurs pays respectifs après plus de 50 ans de rupture diplomatique. Le président Barack Obama devrait annoncer cette décision aujourd'hui à la Maison-Blanche. Et pour terminer, 137 000 dans le premier semestre de 2015, tel a été le nombre record de migrants qui ont traversé la Méditerranée cette année en direction de l'Europe. C'est ce qu'affirme un rapport du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés publié aujourd'hui. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com mais également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.